Bonjour à toutes et tous, nouvel épisode donc aujourd'hui, deuxième partie de l'entretien avec Mathieu Sucq de Mediapart sur le 13 novembre, sur la jeunesse, sur la mise en place, sur le déroulement du 13 novembre et sur la manière dont ça dit quelque chose, disons de ce que ça avait faire, de là où en était l'état islamique en 2015. Aussi, on va parler aujourd'hui de la manière dont ça a évolué depuis. Et aujourd'hui, on va vraiment passer à travers un certain nombre de parcours individuels de djihadistes. Alors évidemment, pas pour parce qu'ils nous sont particulièrement sympathiques ou pour les glorifier, mais simplement parce que, en fait, ils viennent. Disons, vous allez voir, ceux dont on parle aujourd'hui ont des parcours extrêmement différents. Et cette coalescence, le fait qu'ils soient tous à peu près au même endroit, au même moment, qu'en tout cas, ils aient tous une partie, pris partie au déroulement de ces attentats, à un niveau ou à un autre, et révèle quelque chose du fonctionnement de Daesh à cette époque-là, et dit quelque chose aussi de ce qu'on peut-être d'un enseignement qu'on peut en tirer sur la lutte anti-terrorisme dans les mois et probablement dans les années qui viennent. Alors, maintenant, j'aimerais entrer justement dans le détail d'un certain nombre de ces parcours de djihadistes, donc de ces membres de la MIAT, qui seront pour un certain nombre, pas tous, on va en parler d'autres aussi, mais des protagonistes, disons, de la vague d'attentats de 2015-2016, et notamment du 13 novembre. Alors, d'abord parce que c'est intéressant d'incarner un peu toute cette structure qu'on vient d'exposer, mais aussi et surtout parce que je trouve qu'ils exposent tous des facettes un peu différentes de ces services de Daesh, de leur fonctionnement et aussi de leurs limites. Mais alors, juste avant, il faut peut-être dire que, ça renvoie un peu ce que vous venez de dire aussi sur où est-ce qu'on peut recruter, il y a un jeu comme ça, on fait un attentat dans des pays, et du coup il y a l'idée qu'il va y avoir une répression, un sentiment anti-musulman, et que ça va permettre de recruter, en tout cas c'est comme ça que eux y réfléchissent. Mais justement, il faut peut-être prendre l'autre bout de cette chaîne de causalité, si tant est qu'elle soit avérée, c'est, faut dire que, bah, manifestement, dans ce que vous montrez, il y a beaucoup de Français dans cette affaire. Alors, comment est-ce qu'on explique ça, et quelle importance avait, disons, le contingent français à l'échelle de l'État islamique, évidemment dans les attentats contre la France, où ils seront en première ligne, mais ça vous expliquait qu'il y a une logique organisationnelle, ils parlent français, ils viennent de là, ils connaissent l'endroit, c'est logique, mais aussi même au sein de l'organisation, disons, plus généralement.
Alors, les francophones, parce que je mettrais un peu dans le même sac les Français et les Belges, bon, déjà, il se trouve que numériquement, alors, proportionnellement en population, c'est les Belges les plus nombreux, le contingent le plus nombreux du contingent, enfin, sur les djihadistes européens, et les Français, on doit être le plus gros contingent, là, tout court. Donc, voilà, leur importance est quasiment là-dessus mathématique. Ensuite, ces gens-là, c'est marrant parce que leur trajectoire, et alors ça va m'amener à parler d'un personnage majeur, même s'il faut le garder à sa juste proportion, c'est Abdelhamid Abaoud, parce que son parcours épouse exactement ce profil. Ce sont des jeunes gens qui donc vont rejoindre.
Abaoud, disons tout de suite,
le coordinateur.
Ce serait le coordinateur, le chef d'orchestre du 13 voilà. Novembre, celui
qui
met en musique.
L'officier opérationnel sur le terrain. Donc. Ce sont des gens qui arrivent en 2012-2013 en Syrie pour aller combattre Bachar el-Assad, qui est un tyran, un dictateur, ça ne fait pas trop de contestation. Donc il y a une motivation qu'on peut considérer un peu noble. Enfin, il y a cet aspect, on va faire la guerre d'Espagne du djihad, quand on va combattre un dictateur, et par ailleurs... on va le faire en respectant nos convictions religieuses et notre version intégriste de l'islam. Et donc, ils rejoignent des organisations djihadistes qui mènent le conflit.
Abaoud, on peut dire par ailleurs qu'il n'est pas, c'est pas un mec qui vient pour mu par la misère et le désir de quitter une situation de précarité folle, parce que vous le décrivez très bien que c'est un petit bourgeois de Molenbeek.
Alors, il est à Molenbeek, donc qu'on a souvent caricaturé comme vraiment la zone de non-droit en Belgique. Certes, il y a une population immigrée très importante, il y a de la pauvreté, enfin ça pourrait correspondre à ce que certains fantasment comme cliché, sauf que Abaoud, son père a des petits commerces, qu'il en a donné un à son fils, qui a l'air d'être plus attiré par la petite délinquance que par le commerce, mais n'empêche que Abaoud va vendre son commerce que lui avait légué son père et va se servir de cet argent pour financer des achats d'armes et des biens pour la Katiba dans laquelle il est, et ce qui va l'aider aussi à le faire remarquer, hormis son comportement sanguinaire, mais ça on y reviendra aussi. Donc ça va le faire monter dans la hiérarchie. Mais donc, avant ça, donc, ces jeunes gens rejoignent et veulent participer, donc encore une fois pour résumer, à leur guerre d'Espagne personnelle. Et puis ils arrivent, souvent ils déchantent, c'est qu'ils rejoignent souvent le Jabhat al-Nosra, qui est donc une image... Alors, c'est compliqué, mais pour faire vraiment caricatural, l'EI était donc une filiale à la base d'Al-Qaïda. L'EI projette un groupe qui va devenir le Jabhat al-Nosra, et le Jabhat al-Nosra va s'émanciper de l'État islamique, se revendiquer que d'Al-Qaïda, et du coup, l'EI va revenir en Syrie pour et prendre la main et le dessus sur Jabhat al-Nosra. Et donc, les jeunes... Quand ils arrivent, ces jeunes francophones, ils rejoignent l'organisation la plus connue à l'époque, c'est le Jabhat al-Nosra. Et sauf qu'ils déchantent parce qu'ils se retrouvent à glandouiller dans des maisons, certes très grandes, des villas, mais ils sont à 25 ou 30 dedans. La plupart n'ont pas d'armes, il faut qu'ils payent eux-mêmes leurs munitions, enfin, et ils vont pas souvent faire la guerre. Et donc, bah, leur guerre d'Espagne, elle est pas terrible. Et donc, ce qui fait qu'au fur et à mesure de l'expansion et des conquêtes de l'État islamique, on va voir une migration des djihadistes francophones de l'un à l'autre. Et elle va se faire massivement parce que à un moment donné, parce que il y a au sein du Jabhat al-Nosra, il y avait une katiba qu'on appelait la katiba des étrangers, qui réunissait à peu près tous ceux qui arrivaient en gros d'Europe occidentale ou orientale. Et le chef, donc Omar al-Shishani, Omar le Tchétchène, de cette katiba, va décider à un moment de rejoindre l'État islamique, avec quelques cadres d'ailleurs syriens. Et donc ces gens-là vont basculer d'un coup vers l'État islamique, qui se distingue en ayant des victoires et en ayant un peu de moyens. Les djihadistes ont des armes, ont des munitions, ont même des tuniques aux couleurs de l'État islamique. C'est un détail, mais ce sont des détails qui peuvent des fois séduire les esprits les plus faibles. Et donc ces gens-là rejoignent l'État islamique et puis ils vont combattre, enfin, si j'ose dire, et puis on leur donne des responsabilités. Ça va être le cas par exemple de Nemouche. Puisqu'on a des otages qui sont français, on va prendre des djihadistes français. Ils vont participer aux interrogatoires. Ça facilite les choses. Là-dedans, et tant Nemouche que Abaoud, par exemple, ces jeunes gens vont montrer leur appétence à mener des interrogatoires un peu musclés et leur peu de scrupules à torturer ceux qu'ils sont supposés à interroger. Et puis au combat, parce que l'un ne va pas sans l'autre, ils se montrent aussi particulièrement courageux, particulièrement aussi sanguinaire, et donc ils se font remarquer par les cadres de l'État islamique. Et l'EI a un besoin de se régénérer et de faire monter, avec leur conquête, ils ont de plus en plus de territoires à tenir, et à un moment, faut qu'émergent de nouveaux cadres. Parce que plus vous prenez de place, à un moment, vous avez besoin de gens pour diriger. Alors ça n'a pas été le cas de Nemouche, qui est resté un simple soldat, mais qui est quand même monté dans l'appareil. Mais des gens comme Abaoud ou d'autres sont montés dans la structure, ont pris des responsabilités et se sont retrouvés donc, au sein de l'AMIAT, dans ce qu'il était, ce qu'on avait décrit tout à l'heure, sur ce contrôle intérieur. Quand va arriver le projet et la nécessité de monter des OPEX, tout naturellement, ces gens-là vont rebasculer de ce côté-ci parce qu'ils ont montré leur savoir-faire et puis, dans ces années passées à faire le djihad et à participer à l'amniat, ils ont appris eux-mêmes à leur tour des process de sécurité. Donc, ils sont bons là-dedans et on peut leur demander de faire du renseignement. Et certains d'entre eux, dont Abaoud, ont envie aussi de mourir en chaïd, en martyr, et donc ils vont aller jusqu'à participer eux-mêmes, après avoir aidé à l'organisation, aux attentats.
Alors justement, pour entrer vraiment dans les personnalités, en quelque sorte, il y a une première... On reviendra sur tous les personnages qu'on vient d'évoquer, Nehemouch, Abaoud, etc., et d'autres, mais un que j'aurais aimé évoquer, j'avais jamais vu ce nom avant de vous lire, c'est un individu qui participera pas aux attentats de fin 2015 parce qu'il aurait été mis en jeu avant, mais qui est un personnage très intéressant et un peu énigmatique à l'intérieur de cette organisation qu'est la Miat. C'est celui qu'on appelle donc Abu Obeida al-Maghrebi, donc Abu Obeida le maghrébin, qui a été un temps un très haut placé de la Miat, qui a été un temps le chef d'orchestre, en tout cas des interrogatoires musclés à l'époque où ça se passait à Alep, et qui, bah vous allez nous raconter, mais a un destin de très représentatif de ces histoires d'espions et de renseignements.
Alors je ne sais pas si je vais tout dire pour ne pas tout spoiler, mais c'est un personnage qui, moi, m'a fasciné.
C'est vraiment lui qui dit à Nehemouch et à Abaoud et à l'Ajraoui sur qui cogner, quoi.
Oui, et en même temps, alors, déjà, c'est un Hollandais d'origine marocaine. Et donc, il rejoint très tôt. Il correspond à tous ces profils que je viens de vous évoquer. Mais lui, il est très, très intelligent. Il parle plusieurs langues. Donc, il monte assez vite, encore plus vite que les autres. Et il se retrouve effectivement... amener les interrogatoires de sécurité, donc c'était à l'hôpital ophtalmologique d'Alep, c'était un des lieux de repli de l'État islamique, et c'est là que étaient stockés, si j'ose dire, les otages et qu'étaient menés des interrogatoires. Et donc lui, c'est un peu c'est le chef.
Rappelons toujours que interrogatoire, c'est pas des, enfin c'est des interrogatoires torturants, quoi. C'est...
Alors je vais y venir parce que ça a son importance le concernant, mais il y a des témoignages qui le présentent comme même le chef de l'AMIAT pour la Syrie. Alors il était quand même très jeune et j'ai un doute là-dessus vu que à cette époque-là, on est vraiment en 2013 début 2014, l'État islamique avait tendance à quand même à confier les plus hauts postes à des Syriens et des Irakiens. Mais le fait est qu'il est vraisemblablement très très haut au sein de l'État islamique, au sein de la Miat, au moins en Syrie. Donc c'est quelqu'un qui fait autorité et c'est quelqu'un donc qui va driver. C'est effectivement Nehemouch, Salim Ben Ghalem, qui est un autre djihadiste français, et probablement Abaoud, l'Ashraoui, ça c'est sûr. Et bref, pourquoi je vous disais sur les interrogatoires musclés, ce qui est intéressant, c'est que là où Nehemouch et d'autres, il ne fallait pas les pousser beaucoup pour qu'ils frappent, pour qu'il fasse peur, pour qu'il joue du rapport de force et qu'il torture, Abu Obeida a un questionnement beaucoup plus fin, là tout à fait digne d'un officier de renseignement, c'est-à-dire qu'il va jouer, passer par différents sentiments avec ceux qui l'interrogent, leur faire croire qu'il n'y a plus aucun espoir, qu'ils vont être exécutés, leur faire croire qu'ils sont sauvés, se montrer très gentil et bonhomme avec eux, se montrer très cruel. Et il essaye de jouer et les amener, et d'ailleurs il les amène assez bien, hein, il les déroute, il les déstabilise et il les amène éventuellement à parler. Donc c'est de loin... le meilleur interrogateur et le plus fin. Pourquoi j'intervenais un petit peu quand vous parliez sur les interrogatoires torturants, c'est que Abu Obeida, il y a quand même une constante, en tout cas, alors c'est ma constatation et elle est empirique à partir de quelques cas, hein, je ne peux pas prétendre à l'exhaustivité, Mais de ce que je vois, à chaque fois, c'est lui qui arrête la torture et il évite la torture. Donc, il a quand même un tempérament qui préserve autant qu'il peut les otages, notamment occidentaux. En tout cas, moi, je peux me baser sur ce que je sais, c'est-à-dire les otages occidentaux. Je ne sais pas quel était son comportement éventuellement avec des prisonniers syriens et irakiens. Après,
il y a un loup.
Il y a un loup. Je vous dirai pas tout. Je préfère juste appâter. Ce que je peux juste vous dire, c'est que un jour où je travaille. Parce que j'avais raconté l'histoire d'Abou Beda dans un article de Mediapart avant de le raconter dans un livre. Un jour où je m'apprête, j'appelle un magistrat français pour essayer de l'interroger et vérifier des bouts d'informations que j'ai sur Obeda. Et la personne me dit celui du bureau des légendes. Celui du bureau des légendes. J'avais vu la première saison, mais pas encore la deuxième, je crois. Et il me dit, bah oui, mais en fait, il a inspiré un personnage du bureau des légendes.
On va pas dire lequel.
Je vais pas dire lequel. Je laisse planer le doute. Les gens iront regarder. Et du coup, je me suis précipité regarder le bureau, la saison 2 du bureau des légendes. J'ai tout de suite compris lequel c'était. Et connaissant son histoire, j'ai compris quel allait être le sort et quels étaient les ressorts de ce personnage. Pour la petite histoire, il y a quelques années, pour Mediapart, j'avais interviewé Éric Rochand, donc le fondateur, le créateur de la série.
Je veux juste donner un indice, c'est que le personnage dont il est question dans le bureau des échanges a un accent qui vient de l'Est.
Voilà. Alors. Oui, c'est pas la même nationalité du tout. Mais il y a alors il lui correspond pas du tout physiquement, mais il y a aussi cette même douceur, cette même intelligence qui détonne par rapport à son sbire. Qui me semble être qu'un jeune djihadiste français surexcité et très violent, et qu'on pourrait penser assez proche d'une imitation de ce qu'était Medine et Mouche. Un poil caricatural peut-être, mais voilà. Et juste, Éric Rochand, je lui ai posé la question, il a souri, il a nié, mais je pense qu'on n'est pas forcément obligé de le croire sur cet aspect-là. Juste un dernier élément peut-être sur Abou Beda, donc sans déflorer la finalité. Et de toute façon, même la fin de l'histoire, moi-même, je la connais pas totalement. Je laisse de lourdes pistes, mais il y a encore des incertitudes. Ce qui est fascinant aussi, c'est que c'est un fils de diplomate. Son père est un diplomate marocain qui va aux Pays-Bas et il est issu d'une famille extrêmement cultivée, intelligente, croyante, très portée sur la religion, mais ce sont des gens très raffinés et qui voyagent dans le monde. On est très très loin des caricatures, mais là aussi, c'est aussi un indice, peut-être, sur la différence d'Abou Beda avec les autres.
Justement, parlons d'un deuxième qui ressemble un peu plus à la caricature qu'on fait volontiers. Vous venez d'en parler à l'instant. C'est Medine Mouche, donc, dont on peut dire que ce sera le tueur donc, du musée juif de Bruxelles en 2014. Alors, Medine Mouche, d'où il vient et qu'est-ce qu'il fait là?
Alors, Medine Mouche, il correspond... Vous savez, il y a eu... ces expressions que je n'aime absolument pas, d'islamo-gangsters ou d'hybrides professés par quelques escrocs de l'expertise. Donc ces gens qui seraient à la fois voyous et terroristes. En fait, quand on regarde... moi, j'ai travaillé, ma spécialité avant de travailler sur le djihad, c'était le grand banditisme. Je peux vous dire, j'ai dépiauté toutes les listes que j'avais de djihadistes.
On peut dire que votre premier bouquin était sur Abel Ferrara. Antonio Ferrara, pardon.
Et oui, tout à fait. Je peux vous dire que j'ai jamais vu de grands voyous basculer dans le djihad. éventuellement certains, une fois qu'ils ont perpétuité, plus perpétuité, vont se tourner vers un peu de spiritualité et éventuellement vers l'islam radical. Mais quand vous regardez les terroristes qui ont un passé délinquantiel, notamment en France, vous n'êtes jamais dans le grand banditisme. Vous prenez Mohamed Merah, vous prenez Hamedi Coulibaly, vous prenez donc Mehdi Nemmouche. Qu'est-ce que vous avez ? Vous avez des braqueurs de supérettes. Vous avez des petits trafiquants de drogue, éventuellement, mais surtout des braqueurs de supérettes de leur quartier. Ils vont frapper pas très loin. On est vraiment dans le stade d'avant. Et justement, ce sont des jeunes qui n'ont pas réussi, vraisemblablement, à intégrer le grand banditisme vont se faire recruter en prison par des terroristes djihadistes qui vont leur vendre quelque chose qui va leur plaire. Mais donc, Nemmouche, on est dans ce cadre-là. On est dans une famille du nord de la France. Il s'adonne, il a un cadre familial assez compliqué il s'adonne à des petits braquages. Il va être incarcéré et en détention. Notamment dans le sud de la France, il est repéré par l'administration pénitentiaire comme étant en train de se radicaliser, comme professant régulièrement des menaces et des velléités de perpétrer des attentats et fréquentant donc des gens condamnés pour terrorisme djihadiste. Et donc il va être signalé, l'administration pénitentiaire va même indiquer sa date de sortie à ce qui ne s'appelle pas encore la DGSI mais la DCRI, en disant bon, il est un peu dangereux, il n'y aura personne pour le suivre à sa sortie, et au bout d'une semaine, il prend le premier avion, il va rejoindre la Syrie, faire le parcours qu'on a déjà un peu évoqué, et puis au bout d'un an ou deux, repartir en sens inverse, en passant par l'Asie. Là aussi, on retrouve une espèce de savoir-faire qui est une certaine constante, des terroristes qui, quand ils veulent passer pour quitter une zone authentifiée de djihad, ne se rendent pas directement dans le pays cible où ils veulent perpétrer leur attentat, mais font des détours et plutôt par des zones...
Bagdad-Paris, il est un peu cramé, quoi.
Voilà, et plutôt par des zones, notamment en Asie, qui sont des zones réputées de vacances pour la jeunesse occidentale. Donc Nemmouche va en Thaïlande, et là aussi c'est quelque chose qu'on retrouve chez Nemmouche comme chez d'autres, et comme notamment les auteurs des tueries du 13 novembre ou de ceux qui les ont précédés ou après, mais qui faisaient partie de cette même cellule, c'est quand vous êtes à l'étranger, en repérage ou en déplacement pour perpétrer un attentat, vous prenez en photo devant des monuments touristiques, enfin vous jouez à la panoplie du touriste, éventuellement vous prenez en photo avec des verres d'alcool ou ce qui pourrait s'apparenter à des verres d'alcool, vous faites tout pour tromper éventuellement une éventuelle surveillance. Et donc Nemmouche va passer par l'Asie, va faire un petit tour en Asie avant de rentrer, d'aller en Belgique et de perpétrer l'attentat qu'on connaît.
Et ça, c'est un attentat frappant, tragique, donc il tue des touristes au musée juif de Bruxelles. Ça a quand même l'air d'être une échelle un peu différente du grand master plan que sera le 13 novembre après, quoi. C'est moins spectaculaire, c'est moins organisé, c'est un truc assez... j'ai pas envie de dire que ça a l'air d'être fait à la va-vite, mais en tout cas, ça, c'est moins élaboré que ce qui viendra après.
Alors, effectivement, bon, en même temps, il y a quand même déjà 4 morts. Il y a un petit débat, et j'ai essayé de trancher autant le faire que se peut dans mon bouquin. C'était le côté, a priori, Nemmouche... aurait eu simplement l'autorisation de partir de l'État islamique en considérant qu'il avait fait le job en Syrie et qu'il avait un blanc-seing parce que monsieur avait très envie il idolâtrait Mohamed Merah et il avait très envie de refaire une Merah, si j'ose dire, avec toutes les guillemets du monde. Et donc, l'EI lui aurait dit, bon, c'est bon, t'as travaillé pour nous, maintenant, tu peux y aller. Dans le livre, j'ai essayé de montrer dans un chapitre que, en fait, notamment à travers Nemo va tuer les quatre personnes au musée juif, il prend un bus, un car pour se rendre sur Marseille. On n'a jamais su ce qu'il allait y faire. Alors, au même moment, il y a des gens, ou quelques semaines plus tôt, qui vont se faire arrêter par la DGSI, qui étaient des gens qu'il avait fréquentés en Syrie, d'autres Français, et on peut penser que peut-être qu'ils allaient tous se retrouver. Mais là, ce n'est qu'une hypothèse. N'empêche que, donc, il est interpellé, pris vivant, incarcéré à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy, en attente de son extradition vers la Belgique, vu que les faits qu'on lui reproche ont eu lieu là-bas. Et il est à l'isolement à la maison d'arrêt, mais il va commencer à discuter avec un revenant d'une filière djihadiste, qui est lui-même en attente de son jugement en France. Et l'autre échange quand il est dans la cour, et en fait il y a des surveillants qui entendent des bribes, qui voient qu'ils échangent régulièrement. Et alors c'est pas un système de sonorisation, c'est seulement l'oreille d'un surveillant collé limite contre la porte et qui prend des notes. Alors malheureusement il prend les notes comme il peut, et on peut penser qu'il y a tout un tas d'informations qui ont été manquées, mais ça va terminer en PV. Et dedans, Nemouche déjà avoue être l'auteur de la tuerie du musée juif, parce qu'il dit grâce à moi il y a 4 juifs de moins sur terre, et par ailleurs il pose des questions, il se renseigne sur des gens, on sait pas trop qui, mais il dit à son interlocuteur, tant qu'ils ont pas démantelé la filière c'est bon, on va pouvoir continuer, je sais plus, quelque chose comme ça, et qui laisse entendre que non, il n'était pas tout seul, qu'il y avait un projet organisé. D'ailleurs, il se plaint qu'on l'ait un peu abandonné, qu'il soit retrouvé à la rue et qu'il ait dû se débrouiller tout seul pour faire son attentat. Donc apparemment, il y a eu des problèmes de jonction et de communication. Mais ça laisse entendre que la chose était plus organisée. Et par ailleurs,
j'avais peut-être connecté donc avec cette cellule dont on devine que c'est celle qui frappera globalement un an plus tard, au 13 novembre.
Et j'avais produit surtout aussi une écoute d'une autre filière djihadiste française, et dans lequel, en fait, il y a un moment, prend le téléphone, donc il y a un Français en Syrie dont on sait qu'il est proche de Nemouche, qui appelle un de ses copains en France, et à un moment, Nemouche prend le téléphone. On ne sait pas de ces Nemouche à la base. Il y a seulement Sakounia, mais Sakounia correspond. On sait qu'ils sont ensemble. Donc c'est le nom de guerre que se choisissent les djihadistes, donc Abu Omar, Abu Mohamed, Abu Ubeda et d'autres. Et donc ça a été ça lui a été attribué après. Mais donc c'est Mehdi Nemouche qui dit au troisième qui est en France, qui vient de rentrer de Syrie. Donc ils étaient ensemble. Il dit, au fait, tu sais, mon truc, il est reporté à plus tard. On m'a demandé, machin. Et là aussi, on a vraiment une impression de quelque chose de déjà concerté. Et troisième élément, le djihadiste en Syrie qui prête son téléphone à Nemouche va rappeler son copain, un autre copain, sympathisant lui djihadiste, il n'a pas été en Syrie, on est dans les mêmes dates, on est sur les mêmes époques, et il lui demande s'il peut avoir des faux papiers de qualité. Et l'autre lui dit oui, pas de problème, mais ça coûte cher. Hein. Ouais, non, mais c'est bon. Non, mais ça coûte vraiment très cher, tout ça, et puis en gros, moi je veux pas les avancer. Et l'autre, depuis la Syrie, il dit, non, mais t'inquiète pas, c'est un ordre du calife. Alors, c'est pas encore le califat n'a pas été prononcé, on est qu'en 2013. Hein. Il dit l'émir des croyants, mais ça désigne Al-Baghdadi. Il dit, t'inquiète pas, ça coûtera le prix que ça coûte. Ah, mais nous, on veut des bons papiers de qualité. Il faut savoir que donc, on est en 2013. Ces djihadistes français, à l'époque, sont un peu sans le sou à Alep. Les mêmes sont en train de réfléchir à monter un projet de lavomatique pour tenue de djihadistes à Alep, en vue de se lever des fonds pour pouvoir financer l'arrivée de copains. Enfin, bref. Donc, il tire le diable par la queue, et là, quand il s'agit de se faire faire des faux papiers en France, c'est open bar, et ils vont pas regarder à 1000 euros près. Ça montre bien, là aussi, qu'il y a des moyens qui ne sont pas les leurs, qui sont derrière eux, pour avoir des faux papiers, pour pouvoir circuler en Europe et en France. Et par ailleurs, là je suis rentré dans le détail parce qu'on était autour de Nemouche, il y en a d'autres dont je vous épargnerai le récit, mais on sait que, pareillement, à la même époque, notamment c'est Abou Beda, je crois, qui pose des questions par moment, on se renseigne sur le chemin pour la route des migrants, ce qui est exactement la route que prendront les terroristes du 13 novembre après.
Ouais, mais donc on voit, il y a toujours cette espèce de dialectique entre cette galaxie, leurs vraies conditions, etc., le fait que c'est, globalement c'est un peu des va-nu-pieds du djihad syrien, en tout cas pendant assez longtemps, et puis le fait que sur certains projets, sur certains trucs, ben, d'un coup on voit qu'il y a toute la puissance d'une organisation qui n'est pas encore ce qu'elle sera, mais qui est capable de se mettre en mouvement.
Tout à fait, et par ailleurs ça permet aussi de démonter tout le discours actuel qui est fait au procès des attentats du 13 novembre que vous évoquiez tout à l'heure, celui de Salah Abdeslam, de dire « on vous a frappé parce que vous nous frappiez ». En gros, parce que la France bombardait la Syrie et l'Irak. Déjà, moi, dans un récent article de Mediapart, j'ai essayé de démonter ce discours, qui est vrai, c'est-à-dire que Abdeslam, on sait que les kamikazes du Bataclan ont proféré ces mêmes propos pendant qu'ils étaient en train de tuer les malheureux spectateurs. Il y a tout un tas de djihadistes qui, quand ils perpétuaient leurs attentats, tenaient ce discours. Et c'est moi-même, je vous racontais à propos de Qassim, que c'était la finalité stratégique, politique de l'État islamique, bien sûr, de faire cesser les bombardements. Bien sûr qu'il y a un objectif stratégique, je ne vais pas vous dire le contraire de ce que je vous ai dit tout à l'heure. En revanche, il y avait une velléité de la part des djihadistes, ou plus bas rang, les simples soldats dont on vient de parler, mais aussi de leurs autorités, si j'ose dire, de frapper l'Occident, et notamment la France, avant même qu'il y ait les frappes de la coalition. L'exemple de Nemouche en est un, mais quelques semaines après Nemouche, il va y avoir un attentat d'ampleur qui va être déjoué au Liban, et il y a tous les projets, le fait que l'EI s'intéressait dès 2013 à comment, logistiquement, pouvoir amener des tueurs, des djihadistes ayant combattu en Syrie, sur le territoire national ou en Europe. Donc on voit bien que ces projets, peut-être que ça aurait attendu un an de plus, je ne sais pas, on ne peut pas réécrire l'histoire, mais ces projets ne sont pas nés que des frappes de la coalition internationale. Ça a été le facteur déclencheur, c'est tout.
Alors, on a déjà dit pas mal de choses sur Abaoud, donc on va peut-être passer à d'autres. Mais alors, notamment un peut-être dernier, peut-être qu'on parlera encore d'un, mais dont j'aurais aimé dire un mot parce qu'il est vraiment très détonnant dans tout ce paysage et très à part. C'est Tyler Villus, qui est donc il a survécu. Hein, on pense qu'il aurait dû faire partie plus ou moins du 13 novembre, mais il s'est fait pincer avant autrement. Je voudrais qu'on en parle parce que c'est vraiment un recrutement très très différent, aussi quelqu'un qui a des faits d'armes très différents en Syrie,
Et puis au final, bon, bah, ils se retrouvent à peu près au même point d'arrivée. Mais ça dit aussi quelque chose de, disons, de, des carrières différentes au sein de l'État islamique.
Alors c'est un personnage effectivement fascinant. Et d'ailleurs, pour l'avoir discuté avec certaines personnes, on constatait tous ceux qui l'ont approché à peu de près, y compris des journalistes, des magistrats, des avocats, tout le monde termine un peu abîmé ou obnubilé par ce personnage. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un d'extrêmement, extrêmement intelligent.
Alors déjà, on peut dire que c'est pas le même recrutement, c'est pas un musulman. Enfin, si, ça, c'est un musulman.
Je vais y venir, mais juste pour, sur le côté fascinant, je peux vous dire, ça fait maintenant près de 20 ans, plus de 20 ans ou presque, que je suis journaliste et que je fais des faits divers. Donc j'ai, effectivement, on en a parlé, j'ai travaillé et rencontré des voyous, j'ai fait du crime de tout venant. Enfin, j'en ai vu, je pense, voilà, pas mal. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi intelligent que Tyler Villus. Tyler Villus, c'est quelqu'un qui normalement n'a rien pour lui, ne doit pas réussir dans la vie. Il est issu alors d'un mariage qui ne va pas durer, mais son père est un religieux antillais. Enfin, très, très croyant. Sa mère est issue de la communauté des gens du voyage.
Un religieux, mais un religieux évangéliste.
Évangéliste,
c'est,
oui, pardon.
C'est pas un imam du tout, quoi.
Non,
c'est...
oui, pardon, excusez-moi, j'avais pas réalisé qu'on aurait pu se méprendre. Tyler Villus, comme plein d'adolescents, de jeunes, a du mal à se trouver. Il a une fascination... pour le sport, il pratique des sports de combat, de mémoire. Il est très impressionnant physiquement. À un moment,
et donc c'est un immense antillais hyper musclé, quoi. Enfin, je veux dire, c'est
mélange.
Il faut voir la tête de Nemouche
Tout à fait.
Ça n'a rien à voir.
On est entre l'antillais et la personne issue des gens du voyage, mais ce qu'on aperçoit, c'est plutôt bien sûr, il est typé, il est métisse. Donc mec assez très costaud. Dans sa jeunesse, je crois qu'il l'était pas du tout, et même qu'il souffrait un peu. Mais il est passé d'une extrême à l'autre.
C'est le cas de beaucoup de gens costauds.
Oui. Et c'est tout le parcours de Villus qui passe d'une extrême à l'autre. Et à telle enseigne qu'il raconte, alors c'est sa légende à lui, mais quand on voit son intelligence, on peut penser que c'est vrai, que un beau jour, il se met à se plonger dans le Coran et que. Il le lit en deux jours, ou trois, je ne sais plus, et que à la fin, il devient musulman. Et voilà. Et c'est vrai que là où beaucoup de djihadistes ont des connaissances très sommaires de la religion musulmane, la grande blague, c'est qu'on dit que les djihadistes sont arrêtés à la première sourate et qu'ils ne connaissent que celle-là. Et certains ont déjà du mal avec la première sourate. Villus, apparemment, est quand même très, très imprégné de culture religieuse musulmane. Et donc, il se radicaliserait presque tout seul. Bon, j'ai toujours un doute sur ce concept d'auto-radicalisation. Mais j'ai pas assez creusé la question concernant Villus pour avoir un avis très prononcé. Mais bon, encore une fois, il a un profil tellement particulier que pourquoi pas. Et lui, c'est... alors. Quand il y a le printemps arabe, on le retrouve en Tunisie. Et c'est très intéressant parce que, en fait, ça a été une espèce de terreau, la Tunisie, à ce qui s'est passé en Syrie et à l'État islamique et à ceux qui nous ont frappés. Non pas en tant que matrice reproductible, mais parce qu'on va y trouver... dans un petit périmètre, c'est-à-dire Tunis et les environs, à peu près tous les gens qui nous ont frappés, que ce soit les terroristes eux-mêmes ou les commanditaires. En tout cas, dans la communauté francophone, c'est assez marquant. J'ai jamais fait, mais je voulais faire une frise chronologique et géographique et située, parce que on voit tout le monde y est à peu près au même moment. Et voilà. Et Vilus, lui, va participer. Il l'a reconnu, hein, donc voilà, au saccage de l'ambassade des États-Unis qui va avoir lieu par des islamistes radicaux. Donc je ne sais plus en quelle année on est, mais ça doit être 2012 ou 2011-2012. Il rejoint la Syrie. C'est très intéressant, c'est qu'il rejoint la Syrie en 2012. Donc il est vraiment dans les premiers Européens à rejoindre donc, cette katiba des émigrés. Il combat. D'ailleurs, là aussi, c'est aussi quelque chose qui fait la différence avec les autres. C'est qu'à son procès, il dit « Moi, je ne vais pas vous dire que je suis venu faire de l'humanitaire. Moi, je suis venu combattre et j'ai combattu. Mais voilà la cause. »
Là où c'est intéressant, c'est qu'il aurait par ailleurs du mal, parce que c'est un mec qui était extrêmement prolique sur Facebook, qui auto-documentait tout sur Facebook. Donc
Alors, il était à la fois prolixe, mais sur des faux comptes. Il était très prolixe, mais il n'apparaissait pas. Et il était sur des faux comptes. Alors, des faux comptes qui vont pouvoir être identifiés, mais voilà. Et de la même manière qu'Abaoud, au bout d'un moment, va disparaître des réseaux sociaux, la dernière année de Vilus en Syrie, on n'a rien sur lui. On voit qu'il a vraiment... Il est rentré dans une... Alors qu'il est un cadre, et on y viendra, de l'État islamique, on voit qu'il rentre dans une clandestinité, en tout cas sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et donc, il arrive là-bas, et il va gravir les échelons. Faut savoir, je le raconte dans le livre, c'est lui qui va prendre sous son aile un jeune djihadiste belge qui s'appelle Abdelhamid Abaoud. C'est lui qui va même voler dans le cadre des contentieux entre différentes organisations djihadistes qu'il y avait à l'époque. C'est lui qui va voler, si j'ose dire, des jeunes djihadistes, aspirants djihadistes qui arrivent de Strasbourg, dans lequel se trouve un certain Foued Mohamed Agad, qui est un des trois kamikazes, qui sera un des trois kamikazes du Bataclan, et vraisemblablement tout laisse à croire que Tyler Vilus l'a pris sous son aile. Vilus, on va le retrouver au printemps 2014 en train de faire le shérif à Chadadi. Chadadi, c'est une ville à l'est de la Syrie qui est située sur un nœud de circulation qui est très intéressante pour l'État islamique. Et il fait la loi, il va participer, on va retrouver une vidéo où son visage n'avait pas été flouté, il va participer à une exécution. Alors, il est dans le service d'ordre, on peut penser qu'il est un des donneurs d'ordre, mais en tout cas, on le voit rien faire, si ce n'est qu'il est en tenue militaire et qu'il est le premier à s'approcher une fois que les deux bourreaux ont exécuté deux militaires syriens. Et cette exécution filmée, entre autres choses, parce qu'effectivement, comme vous l'avez évoqué, les services, la DGSI va pouvoir remonter sur tout un tas de choses et lui attribuer des choses par rapport à ses communications à l'époque où il communiquait beaucoup sur Facebook en vue de recruter des jeunes et de faire venir des jeunes, des garçons, des femmes.
Mais disons que c'est la grande époque de la GoPro, quoi. C'est les mecs de l'État islamique qui se filment en GoPro sur des Jeeps, enfin, sur des Hilux.
Sauf que lui n'apparaît pas. Ouais. Il n'apparaît jamais parce que...
Ce que je veux dire, c'est que c'est ce moment-là de communication où ils auto-documentaient tout ce qu'ils faisaient.
Oui, lui le communique, mais juste par l'écrit. Et d'ailleurs, il y a une photo qui est appelée à devenir célèbre, où on retrouve plein de djihadistes, alors certains des terroristes du 13 novembre, mais d'autres djihadistes francophones et notamment français qui ont été célèbres et médiatiques à des moments, je vous épargner le détail, mais ils sont tous réunis lors d'une réunion. En fait, certains, pour vous la faire courte, voulaient s'émanciper de l'État islamique parce que trouvaient quand même que là, ils étaient vraiment sauvages et avaient une ambition de faire une katiba. Hein. Il y avait eu la katiba des immigrés, mais ça serait mieux de faire la katiba des Français ou des francophones. Et donc, aller voir tous les autres Français. Et donc, il y a une réunion à laquelle participe Vilus. Et donc c'est Mourad Fares, qui était donc un djihadiste français très médiatique, voire le plus médiatique à l'époque, qui y va et qui leur présente son projet avec ses amis. Vilus fait merveilleux avec ses potes. Il y a déjà Abaoun, mais apparemment il n'était pas présent ce jour-là. Et il lui dit, ah, c'est formidable ton projet, enfin bon, on en discute. Et en fait, un jour où Mourad Fares va voir l'administration de l'État islamique, l'attendent des hommes cagoulés et comprend qu'en fait il a été trahi et que les gens qui l'avaient accueilli, les Français qui l'avaient accueilli, vraisemblablement avaient été le faisaient pour le compte de la MIAT et les avaient dénoncés.
Mais ce qui veut dire que Vilus a déjà le poste qui lui permet de débusquer les taupes, c'est-à-dire un poste très important à l'intérieur de la MIAT.
On peut en tout cas l'imaginer et donc avant que Fares se fasse arrêter, tout ça ne dégénère, l'un des participants a pris une photo et l'a mise sur Facebook. Parce que, comme vous le racontiez, effectivement, c'était l'époque. Et Vilus aurait piqué un phare et aurait engueulé celui qui avait fait ça en disant « Tu comprends, moi je veux pas que mon visage soit connu parce que apparemment il avait déjà le projet de rentrer en France pour perpétrer un attentat un jour. » Et donc voilà. Il est à Chadadi. Il fait venir sa mère, qu'il a convertie, et sa mère fait des allers-retours entre la Syrie et la France parce qu'elle a deux fils. Et donc, l'un n'est absolument pas converti. Voilà, et donc, elle se partage entre les deux, ce qui va donner la légende. Et dans la presse, on va la surnommer Mamie Djihad, qui est une expression que j'apprécie peu parce qu'en plus... Elle doit avoir la quarantaine, enfin, elle n'est pas si vieille que ça. Et voilà. Et un jour que la mère de Vilus rentre en France pour aller voir son autre fils, elle est interpellée. Parce que les policiers ont découvert que, sur des écoutes, elle semble chercher elle aussi à radicaliser et faire venir des jeunes femmes en Syrie. Et il se trouve que dans ces affaires, il y a une lettre écrit par Vilus à l'attention de la DGSI en disant « Faites attention, pour l'instant, je ne suis pas focalisé sur vous et votre pays, mais ça, craignez que ça le devienne. Et n'embêtez pas ma mère. » En gros, je vous résume et je schématise un peu. Ce qui en dit long aussi de la personnalité et éventuellement de son ego et de la dangerosité qu'il se prête à lui-même, qui là est vraisemblablement pas infondée. Et voilà, et à partir de ce moment-là, Vilus disparaît. Et on va le retrouver à l'été 2015, au début de l'été 2015, dans une scène qui est assez incroyable. C'est que les douaniers turcs à l'aéroport, il y a quelqu'un qui présente un passeport suédois. Un grand mec baraqué, enfin, photo sur la carte d'identité, un grand mec baraqué, chauve mais assez pâle. Et là, ils ont un mec, un grand mec baraqué, chauve, mais enfin crâne rasé, mais plutôt bronzé. Le nez, il n'est pas tout à fait épaté de la même manière et tout. Et lui demande s'il est vraiment suédois. Et oui, oui, bien sûr. Et il le laisse rentrer dans l'avion. Et quand même, il trouve ça bizarre. Et ils vont chercher dans les magasins de l'aéroport. Et à un moment, il y a quelqu'un qui dit « Ah oui, bah, moi, je parle suédois. Je suis suédois ou suédoise. » Et donc, il l'amène dans l'avion avant qu'il décolle. La personne parle en suédois. Et l'interlocuteur dit « Bah, bon, d'accord, vous m'avez eu. » Et il se trouve placé en centre de rétention. Les autorités turques envoient la photo d'identité de cette personne qui, vu le trafic à ce moment-là aérien depuis la Turquie, on peut penser que c'est un djihadiste. Donc ils l'envoient à différents services de renseignement. Et quand la DGSI reçoit ça, ils disent « Ah, mais c'est Tyler Vilus, oui, on connaît. Faut nous le renvoyer. » Et Vilus, pendant ce temps-là, donc est en centre de rétention administrative en Turquie et arrive à corrompre des gens et à conserver son téléphone. Et il envoie des messages à Abdelhamid Abaoud en lui disant « Ils m'ont parlé de la MIAT, j'ai dit je connais pas, mort de rire, mais de toute façon, ma détermination est intacte et dès que je sors, je tape. » Mais continue sans moi, enfin, il y a un truc comme ça, genre, je pourrais pas être avec vous, mais voilà. Et ce qui fait que, y a là aussi une autre scène cocasse, c'est quand il finit par être extradé en France, la DGSI l'attend à son arrivée à l'aéroport, et quand il découvre que, en fait, il a pu passer des coups de fil, il refonce dans dans l'avion qui est en train d'être nettoyé pour essayer de voir si il n'aurait pas laissé un autre téléphone en plus, parce qu'ils ont trouvé le téléphone qu'il avait conservé avec lui. Voilà. Et le téléphone qu'ils ont trouvé, au moins, ça va leur permettre d'exploiter et de découvrir les échanges de textos avec Abaoud.
Donc on ne saura jamais ce que ce serait devenu, mais de toute évidence, il était en phase de coordination avec Abaoud, donc probablement qu'il
aurait eu... Tyler Villus a reconnu son procès, donc il est condamné définitif et a écopé en appel récemment de la réclusion criminelle à perpétuité. C'est un des deux ou trois seuls Français qui a été jugé pour, non pas association de malfaiteurs terroristes, mais pour direction d'un groupe terroriste. Jusqu'à ce qu'il y ait le cas de Tyler Villus, je ne savais même pas que cette qualification pénale existait, j'avoue mon inculture. Et les assassinats des deux, les exécutions sur la place de Chahadi. Et au cours de son premier procès, Tyler Villus a reconnu qu'il venait faire un attentat, mais bien sûr a toujours nié celui du 13 novembre. Et il disait que c'était un projet indéfini, que bien sûr lui il était un guerrier et qu'il allait s'en prendre à des policiers et pas à des victimes innocentes sans capacité de se défendre. Ça reste l'inconnu, et par ailleurs, au regard de son pédigré, de son passé de formateur et de supérieur d'Abaoud, de Mohamed Agad, il connaissait une bonne partie du commando, je ne vous ai pas détaillé les autres, mais il en connaissait d'autres, et qu'il avait sous son aile en Syrie, de son intelligence, qui est encore une fois très vive, certains pensent que s'il avait dû faire partie du commando du 13 novembre, tous les éléments que je viens de vous donner ne font qu'il n'aurait pu en être que le chef sur le terrain à la place de Abaoud. Après, là, c'est la vérité, il n'y a que ces deux hommes-là qui la savent.
Alors, faut qu'on passe, on ne peut pas évidemment faire tous les portraits. Parce que, alors notamment, il faudrait parler de... Bon, il y en a une infinité dont il faudrait parler, donc dès que vous détaillez très bien dans le livre, notamment Boubacar Al-Hakim, enfin, des personnes comme ça qui sont des très grands pontes de l'État islamique, et par exemple, Boubacar Al-Hakim, ce qui était intéressant, c'est qu'il avait aussi un rôle dans la coordination et le ciblage de la Tunisie, parce qu'il était tunisien à l'origine, c'est notamment lui qui aurait piloté l'attentat du Bardo et qui aurait été le supérieur d'Abaoud au moment du 13 novembre. Mais donc, si on essaye de refermer cette émission et de conclure un peu, j'aurais aimé faire une sorte de bilan. Donc, on sait que Daesh, c'est globalement fini, enfin, d'ailleurs ce que vous en pensez, mais en tout cas, en tant que califat territorial avec une emprise spatiale et qui peut agir de là, bon, ça c'est un chapitre qui est relativement refermé. Mais à votre avis, qu'est-ce qu'il en reste? C'est-à-dire, ce sont des nébuleuses, tout ça, avec des savoir-faire qui peuvent se transmettre de génération en génération, comme ça a déjà été le cas et que vous nous l'avez expliqué, même en ligne, même de manière très souterraine. Donc à votre avis, qu'est-ce que l'expérience de l'État islamique a légué à cette nébuleuse et qui pourrait se révéler dangereux à l'avenir?
Alors, bien sûr, il faut rester prudent parce que demain, on peut être dédié... par la réalité, rattrapé par la réalité. Bien sûr que la menace projetée, les faits nous le montrent depuis deux ou trois ans, voire plus, la menace projetée telle qu'on l'a connue le 13 novembre à Paris ou le 22 mars à Bruxelles, l'État islamique, avec la perte de son emprise territoriale, n'est plus en capacité à l'heure actuelle. Maintenant, attention, on l'a abordé en début d'émission, Al-Qaïda en Irak, était donnée pour morte à une époque, et on sait malheureusement la postérité qu'elle a eue sous l'appellation d'État islamique. Cette organisation a toujours eu la capacité de se régénérer, et malgré le fait qu'elle ait été de produire de nouveaux cadres, donc pour l'instant ils ne sont plus en capacité. Voilà, on verra ce qu'il en sera de l'avenir. Il y a d'autres menaces, il y a Al-Qaïda, il y a... les organisations terroristes en Afrique. C'est vrai que ce n'est pas le cœur. Et si on regarde notre passé très récent, on a une menace que les services de renseignement qualifient de faible intensité. Enfin, les attentats qui ont lieu à l'heure actuelle sont des attentats dits de faible intensité. Alors, la faible intensité est toute relative quand vous avez 4 morts à la préfecture de police, quand vous avez Samuel Paty qui est décapité, ou quand vous avez les morts à l'église ou la cathédrale de Nice. Mais quand on regarde, ce sont des attentats low cost, dans le sens où les gens sont armés d'une simple arme blanche. Par ailleurs, on voit que...
C'est pas un master plan type 13 novembre. Non,
c'est une menace vraiment endogène, et de gens qui n'ont jamais pu rejoindre, voire même chercher à rejoindre la zone syro-irakienne. Et par ailleurs, il y en a quand même beaucoup qui ont quelques problèmes psychiques ou psychiatriques qui sont non fins. Donc, on est dans cette espèce d'entre-deux où, effectivement, on est un peu dans le creux de la vague, encore une fois, qui est toute relative, parce que les attentats que je vous ai cités nous ont tous ébranlés et marqués. Mais ce grand type d'attentat, pour l'instant, n'est pas une réalité. Maintenant, il ne faut pas du tout croire que ça soit derrière nous, malheureusement. Il y a ce qu'on appelle les sortants, donc tous ces gens qui sortent, qui ont purgé leur peine, ceux qui ont pris les premières condamnations à leur retour de Syrie, et où les peines étaient assez légères, l'échelle des peines a été doublée depuis. Donc il y a tout un tas de gens qui sortent, et par ailleurs, faut pas rester focalisé sur le djihad syro-irakien et l'État islamique. Il y a aussi des gens, au début des années 2010, il y avait des réseaux caïdistes qui ont été démantelés, des gens qui avaient été combattre en zone AFPAC et qui avaient pris 10 ans de prison et qui maintenant sortent. Et là, ce sont des gens qui ont été très bien formés et qui sont extrêmement dangereux et qui avaient combattu là-bas. Donc, il y a une menace qui est multiple, et ce sont des gens qui, un, sont déjà tombés, donc ce qui a déjà été fait peut être refait, c'est-à-dire qu'ils peuvent eux aussi réfléchir à leurs erreurs, et puis c'est tout ce qu'on s'est dit depuis le début de cette émission, c'est qu'il y a un savoir qui se transmet d'organisation en organisation, et de génération en génération. Et on voit que ça s'améliore de plus en plus. Donc, on n'est pas à l'abri, peut-être pas dans un futur immédiat, parce que ces gens-là sortent de prison maintenant et se savent et se doutent qu'ils sont filés par les services de renseignement, mais dans 3, 4, 5 ans, peut-être que là, ils se diront que le moment est plus opportun. Et l'histoire est par moments un éternel recommencement. On travaille beaucoup ces derniers mois ou ces dernières années à Mediapart sur le terrorisme d'ultra-droite, qui est une menace émergente. Quand on regarde, là je me penchais, là, on a fait une série d'articles récemment dessus, et quand on regardait le cœur des dossiers, vous savez, on dit « Ah oui, mais attendez, c'est des petits vieux ou c'est des jeunes écervelés ». Et c'est un peu ce qu'on disait aussi sur les djihadistes. Ah oui, c'est le djihad. Oh, et puis attendez, ils vont mourir en Syrie, c'est moins grave, ça fera ça de moins géré et tout. Et oui, bien sûr qu'ils étaient idiots et qu'ils s'affichaient sur les réseaux sociaux, sur Facebook et tout. Ouais, sauf qu'au fur et à mesure, ceux qui s'affichaient ont arrêté de s'afficher. Et parallèlement, les projets d'attentat qui étaient brinque-ballants, ils se sont perfectionnés, ils ont abouti sur le 13. Et ce qu'on regarde là sur l'ultra-droite, alors je ne dis pas qu'ils vont faire... qu'on aura un tel déficit, mais on a des gens, les projets sur l'ultra-droite, ils étaient très mal fichus au début, et ça s'améliore. Et oui, des fois, c'est des grands-parents, des retraités, oui, il y a beaucoup de parlotte, mais d'un seul coup, bah, on voit que ça progresse un peu. Alors, il faut espérer que ça ne progressera pas beaucoup plus loin, mais voilà, le terrorisme, malheureusement, les gens apprennent de leurs erreurs, et je pense que la menace... d'ultra-droite, mais la menace djihadiste, pour revenir au cœur de notre discussion, va revenir sur des attentats plus élaborés à l'avenir.
Et inversement, à votre avis, qu'est-ce que les services secrets français et même occidentaux plus généralement ont pu apprendre de cette phase? Alors on a dit, faut arrêter de dire que c'est une faillite uniquement des services secrets occidentaux. Il y a aussi un ennemi en face qui était pas mauvais, on l'a vu. Mais qu'est-ce que dans les process, qu'est-ce que les services français ont pu apprendre de cette phase?
Alors, indéniablement, les services français ont progressé. Et j'espère qu'on m'en mettra crédit parce que j'ai suffisamment écrit dans Mediapart ou ailleurs sur les failles et les ratés des services pour être, j'espère, un peu crédible quand je dis que ça a progressé. Moi, je le vois dans les procédures même judiciaires. C'est-à-dire quand on voit les PV, en 2013-2014... Les Cunha n'étaient jamais écrits de la même manière.
Les Cunha, rappelons, c'est donc les non-guerres.
Les non-guerres.
Pour la défense des agents des services de secret, c'est pas facile, ça change tout le temps, et on s'y paume facilement. Mais oui,
oui, mais quand c'est dans un même dossier et qu'on n'orthographie jamais de la même manière la même Cunha du même djihadiste, ça peut être problématique. Et par ailleurs, il y avait des erreurs factuelles ou des... Il y avait tout un tas de choses qui n'allaient pas. Effectivement, c'était très dur et puis il y avait un flot à gérer. On peut discuter de tout ça. Mais en tout cas, le fait est, il y avait un constat, c'est qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Et quand on regarde aujourd'hui les procédures, enfin, ça a complètement changé. C'est d'une densité. Et quelle que soit la procédure, on voit que le niveau général a franchement monté. Là, je vous donne un élément objectif sur les dossiers d'instruction. Après, il y a tout un tas de dossiers, même qui ne sont pas forcément judiciarisés et d'attentats déjoués. Mais là, ça, on partirait sur 2 heures supplémentaires, donc on va peut-être épargner vos auditeurs, qui montrent que les services ont nettement progressé. Et je raconte un exemple qui est celui du projet d'attentat de Strasbourg-Marseille piloté par Boubacar Al-Hakim, qui devait être la réplique du 13 novembre, où là, les services de renseignement, c'est... Tout ce qui a échoué pendant des années, là, ils réussissent tout et c'est même une espèce de catalogue génial de tout ce que peut faire un service de renseignement et c'est absolument extraordinaire.
Mais alors, comme quoi, par donc, exemple
infiltration, l'utilisation des IMSI catchers, enfin, il y a tout un tas de trucs, de filatures, mais ça nécessiterait de rentrer dans le détail, mais vraiment, voilà. C'est un catalogue de tout ce qu'on peut faire.
Mais donc aussi bien techniquement que tactiquement, ouais, ils réussissent tout.
Sur l'humain, sur le technique, ça marche super bien et ça se lit comme un polar en plus. J'ai essayé de le restituer comme ça dans le livre, mais c'est vraiment bluffant. Donc le niveau a énormément progressé. Après, moi, ce qui m'inquiète, c'est que ce qui ressort de cette période, c'est que tous ces gens dans les services... qui ont dû se mettre à niveau et qui se sont pris cette vague, ils ont énormément progressé, sauf que le problème, c'est de la pâte humaine et il y en a plein qui sont rincés et il y a énormément de gens qui quittent les services ou qui quittent la matière djihadiste. Et moi, c'est ma crainte. Alors, pour l'instant, je n'ai pas vu de baisse de niveau. Hein. Faut rester raisonnable. Mais c'est la crainte... à un moment ou à un autre, de déperdition d'un savoir-faire. Voilà, il ne faudrait pas que ce qu'on a connu il y a quelques années se reproduise. Donc, j'ai l'impression que les services en ont conscience et qu'il y a une transmission qui, pour l'instant, m'a l'air de se faire en douceur. Je n'ai pas vu de décrochage à mon petit niveau, parce que on parlait de l'AMIAT, mais de la même manière, là je suis en train de vous parler des services de renseignement qui sont par nature secrets et confidentiels. Donc je sais des choses, j'arrive à enquêter sur eux, mais je n'ai qu'un petit aspect du spectre, je n'ai pas l'ensemble. Donc voilà, il faut espérer que ça ne se perde pas. Pour l'instant, tout va bien encore.
Et enfin, dernière question, donc on l'a dit, c'est un procès qui se déroule encore, donc depuis septembre, qui va se dérouler jusqu'au printemps, ça va être un...
Jusqu'en mai-juin, oui, 2022.
Ouais, ça va être très longue haleine. Est-ce que vous en attendez des choses de ce procès? C'est-à-dire, je veux dire, on voit que vous avez appris et révélé énormément de choses dans votre ouvrage, en même temps, il y a aussi toujours un jeu de pistes, il y a des trucs que vous admettez très bien que vous ne savez pas, et qu'il reste des zones d'ombre. Mais donc, est-ce que vous pensez que le Est-ce que c'est pour les victimes, pour faire la justice est aussi un spectacle de rendre la justice, et c'est très bien comme ça, mais est-ce que vous pensez que le dispositif du procès est susceptible de révéler des choses de ce point de vue-là ?
Alors, pour être totalement honnête, j'attendais pas grand-chose du procès. En plus, alors là, c'est très personnel, mais quand vous avez fait un livre, vous avez l'impression de les connaître un peu par cœur. Et donc j'en attendais pas grand-chose, en tout cas sur les accusés, et j'avais l'impression d'avoir un peu fait le tour. Ce en quoi je me trompais, le dossier du 13 novembre est tellement gigantesque qu'on en apprend tous les jours. Alors je ne suis pas les audiences tous les jours, mais assez régulièrement. Et puis, faut bien dire aussi, c'est que ce procès-là est exceptionnel, parce que l'attentat était exceptionnel en nombre de morts et tout, mais par ailleurs, je pense que ça sera malheureusement un peu unique dans la période actuelle et les procès qui viennent, c'est un peu le seul où on a un vrai box, où les accusés qui sont dedans sont pleinement intégrés au projet terroriste. Sur d'autres attentats, on a eu quand même à juger des gens qui étaient dans une logistique de troisième ou quatrième cercle, qui étaient très très loin, même dans certains cas, d'une radicalisation, voire même n'étaient même pas simples musulmans. Donc là, on est en train de juger des vrais gens qui sont pleinement impliqués.
Donc ça, la tête d'affiche, c'est évidemment
Salah Abdeslam, mais pour moi c'est même d'ailleurs une erreur, parce que il y a dans le box à côté de lui des gens qui, à mon avis, risquent de se prendre des peines assez similaires à la sienne, qui sont largement aussi importants, et si vous les enlevez,
comme qui alors,
alors faut faire attention, parce qu'il y a la présomption d'innocence, mais son ami d'enfance et ami d'enfance d'Abaoud, Mohamed Abrini, qui conduit les terroristes de Bruxelles à Paris, qui devait se faire sauter à l'aéroport de Zaventem. C'était le fameux homme au chapeau que les polices du monde recherchaient. Il y a Mohamed Bakali qui organise et qu'on voit dans la logistique de l'attentat du Thalys, qu'on voit dans la logistique des attentats du 13 novembre, et qu'on voit dans la logistique, et ça s'arrête là parce qu'il va se faire interpeller après. Mais donc voilà, on n'est quand même pas sur du sous-fifre. Plus des gens qui devaient participer au commando, c'est-à-dire, bon, on a Abdeslam, certes. Abrini, vraisemblablement, devait participer, il ne devait pas seulement faire le taxi, mais devait participer à l'attentat du 13 novembre et aurait changé d'avis à la dernière minute. Deux autres hommes devaient faire un attentat le 13 novembre au soir à l'aéroport de Schiphol à Amsterdam. Là aussi, il y a eu soit un problème technique ou ils ne l'ont pas senti. En tout cas, ces hommes sont dans le box. Et enfin, il y a deux hommes qui ont été arrêtés en Autriche, qui avaient été ralentis lors du passage en Grèce, retenus parce que leurs faux papiers étaient de trop mauvaise qualité. Et donc, qui sont arrêtés en Autriche et qui n'avaient pas eu le temps de rejoindre le commando du 13. Donc en fait, ce n'est pas un terroriste qui devait se faire sauter, c'est six qu'on retrouve dans le box, plus l'aspect logistique que je vous ai déjà abordé. Et par ailleurs...
Et vous pensez qu'ils vont dire des choses, ce type-là ?
Non, pas forcément, mais le dossier est très étayé, très accablant. Ouais, je suis intimement persuadé qu'on va battre le record de France, si j'ose dire, je pense pas qu'il y ait un record, mais de peine de réclusion criminelle à perpétuité. Enfin, là, vu la gravité des faits et les charges qui pèsent sur ces individus, voilà. Et par ailleurs, sur l'importance de ce procès, donc je vous ai dit, j'ai été surpris parce que forcément, en fait, c'est tellement immense qu'on découvre des choses tous les jours. Et enfin, il y a quelque chose, c'est que ce procès, pour l'heure, se déroule extrêmement bien. C'est-à-dire, tout a été fait, la justice a mis des moyens extraordinaires, on a une salle d'audience magnifique, qui est un vrai lieu de justice, vu qu'elle a été construite de toutes pièces. La sécurité est assurée. Le cheminement au sein de l'enceinte du palais de justice, tout est fait pour aider les victimes et qui perçoivent tous ces efforts qui sont faits pour eux. Pour la presse, on a des conditions de travail comme on n'en a jamais eu, je pense, à un procès. Et même pour les accusés, il y a eu tout un tas d'aménagements qui font, parce que 9 mois, il faut qu'ils puissent se défendre dans des conditions décentes. Voilà. Et on a des magistrats qui, pour l'heure, se révèlent absolument remarquables, qui connaissent leur dossier par cœur et qui tiennent l'audience. On a beaucoup parlé depuis, vous savez, des petites saillies de Salah Abdeslam, de ses provocations. Bon, déjà, il faut rappeler que c'est un accusé qui est en cours réclusion criminelle à perpétuité et qu'il a le droit à la parole et de dire ce qu'il a envie de dire. Et par ailleurs, moi, j'étais persuadé, par exemple, que Abdeslam allait se taire, il n'allait pas parler. En fait, là, il assume et il nous permet de mettre fin à cette pseudo-légende. Vous savez, il y a certaines personnes qui voulaient nous faire croire que Abdeslam était un peu un terroriste par inadvertance et qu'il ne l'était pas vraiment parce qu'il n'avait pas voulu se faire sauter, alors qu'on le voit du début à la fin du projet terroriste. Bon, bah, au moins, il nous aide, Abdeslam, si j'ose dire, à mettre fin à cette chimère et il assume ses actes. Et par ailleurs, à chaque fois qu'il parle, il est cadré par le président de la cour d'assises. Il n'a pas micro ouvert, il n'a pas table ouverte. Il s'exprime, c'est son droit, mais à chaque fois, le président met en perspective. Donc, voilà, bien sûr, ça peut nous choquer parce que l'idéologie à laquelle il croit, la politique à laquelle il croit, est choquante. Mais ce que je vois, c'est que pour l'instant, les victimes, donc ça fait 3 ou 4 semaines qu'elles viennent témoigner et nous raconter, et ce qu'elles racontent sont quand même, est quand même au-delà de c'est indicible, toutes les douleurs et tout ce qu'ils ont vécu et les traumatismes qui se perpétuent, c'est terrible. Et en même temps, ils ont un discours, souvent ils ignorent les terroristes, les accusés, et ils parlent de tous ces actes de gens qui ont eu le courage de les aider le soir alors qu'ils ne savaient pas où étaient les terroristes, des secours qui ont fait leur travail ou les policiers, et de l'amitié et des aides qui se sont apportées mutuellement depuis qu'ils sont tous réunis dans des associations. Et je trouve qu'il y a presque un message d'espoir. Et au final, donc, l'image de ce procès, c'est une image assez sereine de la justice qui est en train de passer. Alors peut-être que ça ne sera pas plus le cas à la fin, je ne sais pas. Mais pour l'heure, la justice est en train de passer normalement. Et je crois que c'est le meilleur message à opposer aux terroristes. Alors, faut pas être naïf, ça ne fera pas changer d'avis malheureusement les djihadistes, mais on est en train de les juger sereinement en appliquant les lois de la République. Il n'y a pas une justice d'exception. Ils ont fait quelque chose d'exceptionnel d'un point de vue criminel, et ben nous on les juge normalement et ils prendront des peines probablement très très élevées au regard des faits pour lesquels ils sont jugés. C'est normal, mais pour moi, c'est la meilleure réponse qu'on puisse accorder et apporter, pardon. Et c'est une image aussi pour nous, société française, en termes de résilience, qui peut nous laisser croire un petit peu en l'avenir.
Très bien, bah on suivra évidemment. C'est une très bonne conclusion. On suivra évidemment avec attention le procès informant. On l'a dit. D'une part, ça va durer longtemps et puis ça durera encore longtemps après. De réfléchir à tout ça, au procès et à ce qui jugeait. Merci beaucoup Mathieu Suc.
Merci à vous.
Je rappelle donc votre ouvrage Les Espions de la Terreur, paru chez HarperCollins, que je recommande donc très vivement, notamment l'édition de poche augmentée. Et évidemment aussi vos articles qui, j'imagine, émailleront les mois prochains pour Mediapart, notamment au sujet du procès que vous aurez envie d'en faire. J'imagine que ce ne sera pas forcément tous les jours. C'était donc Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que toutes vos remarques et commentaires sont très bienvenus, que ce soit sur les réseaux sociaux de l'IRSEM ou par mail, et que toutes les notes, commentaires et recommandations sont aussi appréciables, que ce soit par Apple Podcast, SoundCloud ou par le bon vieux bouche à oreille auprès de vos proches. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.